l'émission. Mais d'abord, je me tourne vers mon collègue Vincent Dessureau parce qu'on va avoir les toutes dernières nouvelles.
Bonjour Sophie.
Bonjour Vincent, comment vas-tu?
Très bien, toi-même.
Habituellement, à cette heure-ci, on a notre petit rendez-vous avec notre collègue de LCN TVA Nouvelles. Mais comme notre premier ministre Justin Trudeau a décidé de commencer son point de presse en retard,
oui.
Ben ça décale. Le Québec, le Canada au complet est obligé de se retarder à
oui.
cause de lui.
Son point de presse n'est pas terminé, c'est les périodes des questions. Il faut dire qu'il était effectivement en retard. Il y avait quand même quelques annonces.
Bon, ben vas-y.
Ben on peut commencer par ça, parce que dans les dernières minutes, Justin Trudeau qui annonce 10 milliards. Ça faisait quand même quelques jours qu'on n'avait pas eu autant de milliards de M. Trudeau.
Et Dieu sait que comme ça pousse dans les arbres, il n'y a aucun problème.
Ben c'est ça, parce que là, on parle de relance économique et on arrivera donc, évidemment, il y avait la période où on voulait sauver l'économie, aider les travailleurs qui avaient perdu leur emploi là, en urgence. Et là, on veut préparer la suite, de sorte que hier, Justin Trudeau a eu sa 12e réunion avec les premiers ministres des provinces et on a discuté, on a proposé aux premiers ministres des provinces un plan de relance économique qui se veut sécuritaire et efficace, donc dans le respect là, de la protection des Canadiens, un plan de 14 milliards de dollars qui aura pour but de dépenser donc à certains endroits. Je vous fais entendre Justin Trudeau là-dessus sur où ira ce 14 milliards.
C'est de l'argent qui va être utilisé pour acheter de l'équipement dans le milieu de la santé. Ce seront des fonds pour payer le service de garde, pour offrir plus de financement aux municipalités, pour payer des congés de maladie et pour soutenir les plus vulnérables, comme les aînés qui vivent dans les CHSLD. C'est sûr que la situation est différente d'une province à l'autre et notre plan va en tenir compte. Mais voici ce qu'il faut retenir. On est là pour assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens à travers le pays, pendant qu'on relance l'économie.
Et ça se veut,
clair.
C'est assez clair. Ça se veut une relance également verte, hein, parce que M. Trudeau disait que ça devait se faire dans le respect là, de la lutte au changement climatique, de sorte qu'il annonce, et on aura plus de détails plus tard aujourd'hui, là, 60 nouvelles initiatives vertes, la moitié d'initiatives qui seront dirigées par les peuples autochtones du Canada. Alors, on verra les détails de tout ça un peu plus tard aujourd'hui. Il a également annoncé des montants d'argent pour pour les Canadiens qui vivent avec un handicap, donc qui ont eu, au dire de M. Trudeau, des dépenses supplémentaires liées à la COVID-19. Entre autres, on peut penser un peu comme dans le cas des personnes âgées, on doit se tourner vers des livraisons. Alors, il y a différentes problématiques qui ont fait que ça a coûté plus cher. Alors, M. Trudeau qui propose, exactement ou presque comme les personnes, comme les aînés, un montant unique non imposable, dans leur cas de 600 $, qui sera donc offert aux Canadiens qui vivent avec un handicap, et de l'aide également aux entreprises pour adapter les milieux de travail. M. Legault en parlait un peu hier, d'ailleurs. On est dans la semaine pour les personnes handicapées. Alors, on veut favoriser des embauches de personnes handicapées dans des milieux de travail. Alors, le fédéral sera là pour donner un coup de main à ces entreprises pour modifier les façons de faire et les endroits, là, des fois physiquement. Et M. Trudeau qui revenait, parce qu'aujourd'hui, une des nouvelles majeures concerne le taux de chômage.
Oui.
Et là, je vais vous donner les chiffres dans quelques instants, mais soulignait que de moins en moins de Canadiens avaient besoin de la PCU. Alors, cette aide-là d'urgence, on parlait de près de moins 1 million de Canadiens qui s'étaient retirés de la PCU. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça allège un peu, et ça allégera un peu le déficit canadien de
on
voir que
besoin.
Beaucoup de Canadiens retournent dans le marché du travail. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle.
Donc, les chiffres?
Oui, les chiffres.
Ah, pardon.
Ben, je peux y aller avec l'emploi, effectivement, parce que c'est une nouvelle majeure. D'ailleurs, on voyait, pour ceux qui suivent les marchés boursiers aujourd'hui, là, c'est la folie, en raison, et parce que souvent, la bourse va être influencée lorsqu'on les chiffres sont supérieurs aux attentes ou inférieurs aux attentes, parce qu'il y a toujours des projections. Et dans le milieu de l'emploi, on s'est vraiment fait surprendre ce matin par des chiffres de chômage beaucoup plus bas que prévu au Québec, au Canada et aux États-Unis. Au Québec, c'est 13,7%. Évidemment, c'est beaucoup là, par rapport à pré-COVID.
Oui, on avait le plein emploi. Quasiment.
Mais on était au mois d'avril à 17%. Et là, on vient de passer à 13,7%. Alors, un retour de beaucoup, beaucoup de Québécois à l'emploi. Alors, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'était la croissance de l'emploi la plus forte parmi les provinces canadiennes. Alors, c'est excellent. Aux États-Unis aussi, c'est pour ça qu'on voyait les marchés boursiers être en forte hausse ce matin, et c'est toujours le cas présentement. Taux de chômage, Sophie, qui était évalué, là, on évaluait que pour les chiffres qui allaient sortir ce matin, le chômage frôlerait aux États-Unis les 20%, dépendamment de quelle agence. On regardait Barclays, par exemple, c'était 17,5, d'autres jusqu'à 19,5. On était finalement à 13,3. Alors vraiment, là, surpris tout
oui,
le monde.
Oui, je pense qu'il y a un chiffre qui a circulé dès qu'il s'est créé 2,5 millions d'emplois au mois de mai. Donc, ça explique pourquoi la bourse, quoique la bourse de ces dernières semaines réagit de façon complètement irrationnelle, mais au moins dans ce cas-là, il y a un semblant d'effet de cause à effet. Là.
Effectivement, puis là, on ne parle pas d'une piste de traitement.
Non, on parle comme vraiment le Remdesivir. Là.
Exact. Là, on parle de 2,5 millions d'Américains qui sont retournés au travail ou qui se sont trouvés de l'emploi. Alors, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, Donald Trump était triomphant, là.
Il a sûrement pris une partie du crédit.
C'est sûrement grâce à lui. Il a pris tout le crédit, alors qu'évidemment, il n'avait pas pris le crédit de la baisse. On comprend que les États ont ouvert leur économie. Alors que c'est pas, on peut pas.
Mais tu sais, c'est quoi la phrase célèbre? La phrase célèbre, c'est, évidemment, je vais la moffer parce que je suis l'Ephrem des citations.
Oui.
Si je dis Ephrem, tu vois, c'est qui?
Le petit Ephrem? Je sais pas.
Ephrem, c'était dans une émission de télé. Ephrem, c'est le personnage qui est jamais capable de raconter des blagues comme du monde.
Dans quelle émission? C'est ça.
C'est pas vraiment ton époque. Désolé. Bon, alors donc la citation que je voulais donner, c'est la victoire, la défaite est orpheline, mais la victoire a plusieurs parents. Autrement dit, quand tu gagnes, ben là tout le monde dit ah ben moi j'ai participé à la victoire, Puis quand tu perds, ben tu te retrouves vraiment tout seul. Puis il y a plus personne qui va être associé à toi.
Et la chute de l'emploi aux États-Unis, on pouvait pas la blâmer, on pouvait pas blâmer Trump pour ça. C'est la pandémie.
C'est la circonstance.
Mais le retour à l'emploi, on peut pas non plus dire que c'est Trump.
Mais il en a sûrement tiré la couverte.
Il disait que la seule personne qui pouvait débattre là, la force de l'économie américaine, c'était Joe Biden. Alors évidemment, il a tweeté ça tantôt.
Es-tu sérieux? Il a répondu ça?
La seule personne qui pourrait causer du tort à l'économie américaine, selon M. Trump, c'est M. Biden. Alors c'est de bonne guerre, là, mais on s'envoie... Évidemment, aujourd'hui, il va prendre le crédit pour tout ça. Effectivement, les marchés qui étaient en forte hausse. Alors, pour ceux qui avaient perdu beaucoup là dans leur fonds de pension, sachez que ça va bien. On est presque un retour après pré-COVID. Là, oui.
Oui, en tout cas, si je parle du duche, c'est pas mal ça. La relance économique, les exigences, oui, pour les futurs préposés aux bénéficiaires. Parce que c'est aujourd'hui que ça se termine de s'inscrire pour devenir PAB, préposé aux bénéficiaires. Et je sais que nos collègues Maude Boutet et Jonathan Trudeau, qui est allé faire un tour sur le site au moment où ça a été mis en ligne, disaient, voyons, c'est minimal. Hein? Ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse courriel, c'est pas suffisant. Donc, ça prend des exigences. Là.
Oui, et on sait que là, les gens commencent à recevoir une liste de questions, questionnaires. M. Legault en a fait référence hier à ça, où on allait vérifier, entre autres, est-ce que vous êtes prêt à travailler de nuit, est-ce que vous êtes prêt à avoir des horaires instables et tout ça. Et M. Legault l'avait sous-entendu hier, sans donner trop de détails, qu'on allait probablement demander aux gens de s'engager là, pour un certain temps, évidemment en raison du coût de cette formation-là qui est payée 21 $ de l'heure. Alors, il y a un coût pour ça. Et finalement, les candidats devront s'engager à être disponibles pour travailler à temps plein pendant au moins un an. Alors, un peu comme ce qu'on retrouve dans l'armée, là, on te forme, mais ensuite, tu accordes un 5 ans,
par exemple.
Parce
que c'est très frustrant, sinon, on va avoir... Puis c'est surtout que si quelqu'un décide de faire la formation, commence à travailler, puis après s'en va, ça veut dire qu'il a pris la place de quelqu'un qui aurait pu travailler. Parce que la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'il nous manque de bras. Alors, si les bras s'en vont au bout d'un mois, ça donne rien. Là. On doit recommencer l'exercice à zéro.
Exactement. Et on est inquiet que les gens profitent tout simplement de l'été pour être payés pour une formation. Puis qu'ensuite, ils ne se rendent jamais en CHSLD ou qu'il n'y ait vraiment pas d'intérêt à se rendre. Alors, ça va éviter ça. C'est une nouvelle exigence, donc, imposée par Québec. On est rendu à pratiquement autour de 80 000 inscriptions, là. Probablement des doublons là-dedans, mais quand même, ça a été très populaire au-delà des attentes. Alors, on verra. Honnêtement, c'est un
logistique.
Travail incroyable qui devra être fait d'ici une semaine pour choisir tout le monde, les inscrire et démarrer la formation dans à peine
15
un
juin,
peu plus qu'une semaine.
15 juin, c'est
donc
énorme.
C'est vraiment, si c'est réussi et que ça se passe bien, ça va avoir été un tour de force incroyable.
Mais de toute façon, François Legault a mis sa tête sur le bio d'une certaine façon en disant, écoutez, ça va être mon héritage politique là, de si à la fin de mon mandat j'ai réussi ça, ben ce sera vraiment mon fait d'arme. Donc c'est vraiment estampillé Legault partout. Donc il faut que ça marche.
Il faut que ça marche. Effectivement,
je pense qu'on va mettre les fonctionnaires. Ouais.
On dit qu'il y avait une armée là, de fonctionnaires qui allaient faire des entrevues téléphoniques. Vous imaginez 80 000 entrevues téléphoniques ou 50 000, même si on a 50 endroits où on en fait, c'est tout un travail.
C'est énorme. Écoute, je suis passé trop rapidement et tu m'en excuseras, mais le bilan des décès aujourd'hui, ça ressemble à quoi?
Oui, bilan qui vient de sortir. Donc, 50 nouveaux décès, 33, on se rappelle, on les divise maintenant, le 33 dans les dernières 24 heures, mais on en ajoute là aujourd'hui 17 qui datent d'il y a plusieurs jours. Alors, quand même 50 décès. Au niveau des cas, vraiment, on est rendu toujours dans bas de 300, 255 nouveaux cas au Québec. Moins 46 hospitalisations. On est rendu là à 1030. Alors ça, c'est tendance très solide. On est vraiment, ça sort des hôpitaux et c'est une bonne nouvelle. 131 personnes hospitalisées aux soins intensifs, c'est moins 15 aussi. Alors vraiment, on suppose que on a. J'aimerais avoir des statistiques sur l'équipement. Là. Tu vois, à un certain moment, on était à 3 jours de manquer d'équipement. À mon avis, là, ça arrive parce qu'on en a commandé énormément et avec les gens qui lient et qui quittent les hôpitaux. À mon avis, on aura des réserves en masse si jamais on se retrouve malheureusement avec une deuxième phase.
Ouais, une deuxième vague. Là, on sait que les parcs vont ouvrir en juin. Et évidemment, il y a des gens à la CEPAC qui ont rien trouvé de mieux que dire « Hey, on était censé faire une grève avant cette affaire-là. On va remettre ça sur le feu, cette idée de grève-là. »
Oui, il y a une inquiétude,
c'est
là,
un
clairement.
C'est un peu décourageant, excuse-moi, là, mais comme future utilisatrice de parc.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens l'été dernier qui avaient été extrêmement inquiets, là, qui avaient vu même des réservations annulées en raison de moyens de pression dans les parcs de la CEPAC, alors que quand même 2200 membres du syndicat là, sont en renouvellement de convention collective, n'ont plus de convention collective depuis décembre 2018, et on avait reporté les négociations en raison de la COVID, là, ça a repris, mais on sous-entend donc qu'on pourrait avoir des moyens de pression et des grèves à partir de la fin du mois de juin, ce qui pourrait toucher des week-ends, pourrait toucher même de la période du travail de la construction, par exemple. Au syndicat, on se veut quand même rassurant, disant que les parcs, là, même s'il y a grève, c'est quand même ouvert un peu et qu'on aura quand même des accès, mais ça décourage certains qui ont tellement hâte de sortir de la maison, tellement hâte de profiter des parcs, de profiter des chalets, des locations. Ça en inquiète certains. Mais on sait, il y a quand même un objectif là-dedans de faire
serrer
des menaces, serrer
la vis,
mettre de la pression. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour ramener tout le monde à table, s'assurer qu'il y ait une négociation efficace? On le souhaite parce que on espère que les parcs seront ouverts à plein cet été.
Et une chose, Vincent, qui m'a frappé depuis le début de la pandémie, c'est à quel point, tu sais, on disait, bon, tu sais, c'est important d'aller dans les parcs puis de libérer l'accès aux parcs, mais ça ne m'avait jamais frappé autant que, tu sais, c'est comme quand t'es privé de quelque chose, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est important. Les bienfaits psychologiques, juste d'être en contact avec de la nature, à quel point c'est parce qu'on était confinés. Oui, mais tu sais, on aurait pu juste se promener dans les rues, mais de fait d'aller dans des parcs, puis je t'ai fait quelques recommandations.
Absolument, je t'en remercie.
Quelques recommandations, mais à quel point ça fait un bien énorme. C'est pas juste de pouvoir sortir, c'est d'être en contact avec la nature. C'est un besoin essentiel chez l'être humain, surtout dans des périodes, il faut se le dire, ça a été excessivement difficile psychologiquement les dernières semaines, et on a besoin de ça, comme on a besoin d'air pour respirer, on a besoin de prendre un arbre dans nos bras.
Oui, et il y a des études très solides qui prouvent le bienfait sur la santé mentale et physique d'aller dans le bois, que ce soit 15 minutes dans une journée, ou même il y a des effets là, qui sont assez marquants. Donc oui, aller marcher. On a des parcs extraordinaires au Québec.
Là,
moi qui viens de la région de Québec, là, on a le parc de la Jacques-Cartier qui est à une trentaine de minutes de Québec, qui est absolument merveilleux. Donc oui, on espère que tout se passe bien là-bas cet été et qu'on puisse s'y rendre. Et pour respecter la distanciation, s'assurer que ce soit on a besoin des employés sur place.
C'est ça.
Alors, on souhaite que tout le monde soit là. Un mot, Sophie, parce qu'on parlait de l'emploi, qu'il y avait des bonnes nouvelles. Quand même une très mauvaise nouvelle aujourd'hui qui touche Bombardier Aviation, qui a confirmé qu'on va abolir 2500 emplois.
C'est énorme.
1500 au Québec en raison de la pandémie. C'est la division le Bombardier Aviation qui, évidemment, dans une industrie complètement bouleversée.
C'est l'effet domino. C'est sûr, il n'y a plus de gens qui prennent des avions. Donc, pourquoi les compagnies achèteraient des avions?
Et là, on est dans les avions d'affaires. Donc, évidemment, il y a des milliardaires, il y en a, là, même qui plusieurs ont fait de l'argent, même dans la période de la pandémie. Mais il y a quand même un ralentissement important qui est évalué à peu près à 30% sur un an des avions d'affaires. Et ça amène donc des licenciements quand même importants. On va donner les détails plus tard sur les usines les plus touchées, mais c'est plein de bons emplois, bien payés malheureusement au Québec. D'ailleurs, on jugeait ces décisions incompréhensibles du côté du syndicat des machinistes, entre autres parce que Bombardier refuse de rendre accessible le programme de subvention salariale à tous ses employés. Donc, on se questionne à savoir pourquoi on n'a pas utilisé tous les moyens pour pouvoir au moins garder des emplois plus longtemps. Bon, on verra, mais chez Bombardier, on fait du ménage. On disait qu'on n'a pas le choix en raison de l'économie actuelle.
Ouais, et écoute, on peut pas évidemment en cette période de pandémie avoir un bulletin où on partage pas des frasques de Donald Trump. Mais tu nous as dit tout à l'heure quand même son tweet concernant Joe Biden, le candidat démocrate. Mais là, c'est une lettre à propos des terroristes. C'est quoi cette affaire-là?
Oui, parce que Donald Trump ce matin, avant d'avoir les nouvelles de l'emploi là qui lui ont permis de se péter les bretelles, Donald Trump a partagé, ça a fait beaucoup jaser, un message, a fait une lettre envoyée sur les réseaux sociaux par son ex-avocat John Downe. Qui lui, donc, dans ce texte-là, critique les manifestants qui étaient autour de l'église là, qu'on a fait évacuer juste avant que Donald Trump arrive pour prendre des photos.
Avec sa fameuse Bible.
Exact, avec sa Bible, plutôt cette semaine. On sait que c'était des manifestants pacifiques, là, moi-même qui le regardais en direct, là, il n'y avait pas de violence là du tout. Mais dans son texte, donc, partagé par le président des États-Unis, on peut y lire « Les faux manifestants près de Lafayette Square n'étaient pas pacifiques et ne sont pas réels. Ce sont des terroristes qui utilisent des étudiants remplis de haine pour l'embrasement et la destruction. Ils ont abusé et manqué de respect envers la police alors qu'elle préparait la zone pour le couvre-feu de 19h. » Alors, on les décrit carrément comme des terroristes.
Mais voyons
alors que c'était, effectivement, on approchait du couvre-feu, mais on n'était pas encore dans le couvre-feu. Ça se passait plutôt bien. Alors que, d'ailleurs, plusieurs participants à ces manifestations ont déposé des plaintes contre Donald Trump et contre le ministère de la Défense et des hauts fonctionnaires pour violation du premier amendement américain qui concerne la liberté d'expression parce que les Américains sortent souvent la Constitution et on retrouve ce droit de manifester pacifiquement dans la Constitution. Alors, ça fait jaser. Alors, est-ce que c'est des terroristes ou des manifestants pacifiques? Monsieur Trump sera sûrement questionné là-dessus. On verra sa réponse aujourd'hui.
Puis j'ai hâte de voir aussi ce qu'il va dire sur ces images absolument terribles. Je sais pas si tu as vu ça passer, Vincent. C'est à New York. Il y a quelqu'un de NPR qui filme et on voit des policiers arriver vraiment habillés comme des Robocop, là. Puis un vieux monsieur, je m'excuse de le dire, mais il est vieux.
Il a 75 ans, je pense, le monsieur, oui.
Ben, il est vieux. Bon.
C'est pas une jeunesse.
Non, mais c'est parce que, tu sais, il faut faire attention aujourd'hui, là, tu sais, dire, moi, une personne âgée, là. Bon. Un vieux monsieur qui arrive devant les policiers qui sont vraiment en rang d'oignon là, qui avancent d'un pas décidé et manifestement il va les voir juste pour leur poser une question ou quelque chose comme ça et il y a un des policiers qui le repousse tellement fort que le monsieur tombe à terre, commence à saigner et non seulement les policiers ne s'arrêtent pas pour lui porter assistance, mais il y en a un qui fait mine de le faire et ses autres le rabrouent et le reprennent avec lui en disant, tu sais, l'air de dire, ben là, non, occupe-toi pas de lui. Et donc, semble-t-il que les deux policiers qui l'ont poussé et celui qui a refusé de lui venir en aide ont été suspendus par la police.
Et effectivement, il faut pas dire que le monsieur était dans une foule, là, il est vraiment seul.
Ce qui est intéressant en plus, je m'excuse, je vais terminer là-dessus, c'est qu'au début, les forces de police avaient dit, le monsieur, he tripped and he fell. Il s'est enfargé dans ses souliers, mettons, et il est tombé. Mais après, les images sont sorties. C'est comme, comment en 2020, il y a encore des gens qui peuvent penser qu'il y aura pas une image quelque part qui va venir contredire votre discours? Dites pas des niaiseries parce que vous risquez d'être contredit. Bref, c'est des images, vraiment, ça donne froid dans le dos, là. C'est pas rassurant du tout, là. Pauvre petit monsieur qui se fait jeter à terre. Et écoute, tu vois le sang couler. C'est absolument terrible ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup, Vincent.
Merci,
on va se retrouver plus tard, évidemment, pendant la programmation de Cube. Après la pause, manquez pas ça, une entrevue avec Maca Cotto, un ancien collègue d'ici, hein, l'année dernière. Avec Caroline Saint-Hilaire, il avait tenu micro pendant tout l'été. Bref, Maca Cotto, acteur, auteur, animateur et ex-ministre de la Culture et des Communications. De quoi vous pensez qu'on va parler, bien sûr? De racisme systémique.